Vous êtes sur RTL.
C'est à suivre cette semaine.
Ce sera à suivre cette semaine, puisqu'on saura mardi si le salon de l'agriculture est maintenu ou non en février prochain. Ça s'annonce compliqué, reconnaît le président du salon, car même si la jauge revenait à 5000 personnes, elle est actuellement 2000, c'est le nombre de salariés et d'exposants, 5000 aujourd'hui. Alors quant à l'organisateur Comexposium, le troisième mondial dans l'événementiel, eh bien il a été tout simplement placé en procédure de sauvegarde, avec un chiffre d'affaires 2020 divisé par plus de 6 par rapport à l'an dernier. Bonsoir Armel Lévy.
Bonsoir.
On le voit bien, face à l'incertitude, tout le secteur de l'événementiel fait bien grise mine.
Ah oui, ce sont tous les professionnels du secteur qui tirent la langue et subissent la crise de plein fouet avec une perte de 80% de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Pour l'instant, ils ne voient pas la lumière pour pouvoir retravailler normalement. Alors, de quoi on parle exactement? Depuis le mois de mars, dans toutes nos régions, ce sont 4200 salons, congrès et foires qui ont été annulés, ce qui représente 5,5 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Et rien qu'en Île-de-France, en 6 mois, 432 congrès ont été annulés. Donc 400 000 congressistes ne sont pas venus, avec à la clé 700 millions d'euros de pertes et 11 900 emplois supprimés.
Donc voilà, c'est un secteur qui souffre énormément, mais le gouvernement a promis des aides.
Oui, déjà 90% des effectifs ont été ou sont encore au chômage partiel. Le gouvernement leur a promis une prise en charge à 100% de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre. Ces entreprises peuvent bénéficier aussi du fonds de solidarité. Mais ce qu'elles demandent surtout, au-delà des aides, quand c'est possible, c'est de pouvoir retravailler. Du traiteur à l'agence, ils veulent pouvoir refaire des salons, des congrès dans le respect des règles sanitaires et des jauges de 1000 personnes, quitte à tracer le public pour savoir qui vient, qui sort. Sauf que pour l'instant, leur carnet de commandes est quasi vide jusqu'à la fin de l'année.
Merci Armel Lévy et bonsoir Frédéric Bedin.
Bonsoir Vincent Parisot.
Vous êtes le directeur général d'Hopscotch. Alors c'est une agence de communication qui s'occupe de nombreux événements, notamment par exemple le salon de l'auto qui, on le rappelle, a été annulé.
On aurait dû se tenir jusqu'à la semaine dernière.
Voilà, exactement. Vous avez entendu le tableau qui vient d'être dressé. Est-ce qu'aujourd'hui les dispositifs mis en place par l'État sont suffisants pour maintenir la tête hors de l'eau du secteur événementiel?
Ils sont suffisants pour faire survivre des personnes, des entreprises peut-être, mais il y aura certainement beaucoup de défaillances d'entreprises, beaucoup de faillites, beaucoup de gens au chômage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'événementiel, d'entreprise notamment, c'est très différent des fêtes et des spectacles, d'une image qu'on peut peut-être avoir un peu futile du métier. L'événement, c'est au service du business et des emplois de tous les autres secteurs de la
vous
France.
Vous voulez dire que c'est au service de l'économie?
Voilà, vous aviez parlé du salon de l'auto, mais si je prends le salon de l'agriculture, le salon de l'agriculture qui va se tenir peut-être ou peut-être pas.
Pas, on le saura mardi.
C'est pas bon pour l'agroalimentaire français. Le salon de l'aéronautique qui devrait présenter au printemps prochain les projets d'avions à hydrogène. Qui veut investir sur un avion à hydrogène sur Zoom ou sur Teams? Personne. Donc si on tient pas le salon, la filière de l'avion à hydrogène ne verra pas le jour. Donc ce qui est très très important, c'est que de comprendre que les événements d'entreprise, ce n'est pas de la fête, c'est d'abord pas dangereux, mais c'est la survie même de toutes les industries françaises.
Mais justement, est-ce qu'on peut imaginer que des salons se tiennent sans le grand public, uniquement avec les professionnels? Alors,
bien sûr, les salons professionnels se tiennent d'ailleurs en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils n'ont pas arrêté. C'est-à-dire que dans une manifestation professionnelle, il n'y a pas de fête. On n'est pas là pour danser, pour boire des coups, en se parlant très proches les uns des autres, donc se mettre en danger. On a tenu des événements depuis le mois de septembre avec 4000, 5000, 10000, 20000 personnes en plusieurs jours et il y a eu 0 cas de Covid. Tout le monde porte le masque. Nous sommes capables de tracer, comme ça a été très bien dit dans le reportage, 100% des gens qui viennent. On a leur nom, on a leur téléphone, on a leur adresse mail et on est capable d'imposer le port du masque. Et évidemment, on a interdit tout ce qui est festif et boire des coups debout les uns à côté des autres, c'est plus possible. Maintenant, quand on fait du réseautage, du networking, on se parle avec un téléphone à la main. On fait des cocktails avec des téléphones.
Mais aujourd'hui, en France, en tout cas dans certaines régions, avec une jauge à 1000 personnes, c'est impossible d'envisager un salon, même professionnel.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que 1000 personnes au même moment, c'est beaucoup de monde quand même. Et il y a beaucoup d'événements professionnels, par exemple des séminaires d'entreprise qui se tiennent. Et un séminaire de management d'une entreprise, c'est très important pour dynamiser l'entreprise, pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans son quotidien opérationnel. Et donc, on voit des patrons qui ont dit « Maintenant, j'arrête de réunir mes collaborateurs sur les réseaux sociaux, je les réunis en vrai. » Certes, par paquet de 50 et pas par paquet de plus. On fait ce qu'on appelle des événements en grappe. On utilise les technologies pour réunir des grappes de 10, 20, 50, 100, 200 personnes. On a fait un lancement de voiture, par exemple, dans toute l'Europe. Il y avait 200 journalistes dans chaque capitale. Et il faut bien comprendre que pour réunir des journalistes, des investisseurs, des commerciaux, on ne peut pas le faire derrière un ordinateur. Il faut le faire avec des gens ensemble.
Vous preniez l'exemple du salon de l'agriculture. Aujourd'hui, la jauge est à 1000, mais même si elle était à 5000, 5000... c'est le nombre des exposants et des gens qui travaillent sur le
site. Salon de l'agriculture aujourd'hui ne pourrait pas se tenir en l'état, notamment parce que le salon de l'agriculture est un événement grand public. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes, ça veut dire plusieurs dizaines de milliers par jour. Mais il y a beaucoup d'événements que les Français ne connaissent pas. Les congrès scientifiques, par exemple. Si on veut arriver à trouver le vaccin contre le Covid, il faudra faire des congrès pour que les chercheurs se rencontrent.
Donc pas aujourd'hui, par Zoom,
on le fait déjà. On le fait déjà en réunissant une centaine de chercheurs dans chaque continent, et eux-mêmes ils sont réunis par Zoom.
Et alors qui j'allais dire pourrait faire changer la donne? Ceux qui prennent les décisions aujourd'hui, notamment les préfets ou les maires, ils sont trop prudents, ils ouvrent le parapluie?
Alors, le préfet de police de Paris, quand il a annoncé ses mesures il y a quelques jours, il a bien dit tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et d'ailleurs, il est précisé dans le décret que les réunions professionnelles sont autorisées. C'est écrit en toutes lettres. Mais effectivement, des gens prennent peur et des maires, des préfets disent « Oh là là, c'est interdit, tout ce qui est de plus de 10 personnes sur la voie publique, c'est interdit. » Alors, non, c'est autorisé de faire des réunions professionnelles, et vous avez raison de me le rappeler, c'est autorisé jusqu'à 1000 personnes dans les zones rouges écarlates, jusqu'à 5000 personnes dans les zones vertes. Ça veut dire qu'on peut organiser un congrès avec 4000 chercheurs, comme on avait fait le congrès de l'AREF pour le MEDEF fin août. Il y avait 4000 personnes par jour pendant deux jours. Il y a eu zéro cas reporté. Et pourtant, on a vraiment tout fait pour que ce soit très bien.
Merci. Voilà, c'était aussi important de le rappeler. Et mardi, sans doute, l'annonce, on ne le souhaite pas, mais l'annonce de l'annulation du Salon de l'agriculture. Nous verrons bien. Merci Frédéric Bedin, directeur général d'Hopscotch. Dans un instant, ce sera également à suivre cette semaine le lancement de la campagne d'information pour la vaccination contre la grippe, parce que, évidemment, cette année, elle revêt une importance encore plus grande. À tout de suite.
C'est à suivre cette semaine.
Ce sera donc également à suivre la semaine prochaine la campagne officielle de vaccination contre la grippe. Elle démarre officiellement mardi, le 13 octobre. Et bien sûr, avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, eh bien les appels à se faire vacciner se multiplient depuis plusieurs semaines. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Cette année, il y a vraiment un enjeu particulier.
Ah oui, et il est de taille, car en effet, les symptômes de l'infection provoquée par le Covid-19 sont quasiment identiques à ceux de la grippe. Fatigue, fièvre, courbature, maux de tête. Et si une personne vaccinée contre la grippe présente ces symptômes, eh bien, cela peut faire pencher plutôt pour un diagnostic de Covid et simplifier énormément la tâche des médecins.
Donc le principal objectif, c'est ça, c'est d'éviter d'engorger les hôpitaux.
Absolument, surtout dans une période où le nombre de patients atteints de Covid augmente tous les jours et où s'accroît la pression sur les lits de réanimation. Car la grippe, on le sait, outre un surplus de décès, entre 10 et 12 000 enregistrés chaque année, entraîne beaucoup d'hospitalisations.
Quelle est la population aujourd'hui qui est particulièrement ciblée?
Alors, les plus de 65 ans, les personnes, y compris les enfants atteints de maladies chroniques, diabète, pathologie respiratoire, insuffisance rénale, problèmes cardiovasculaires, les femmes enceintes et les immunodéprimés, ceux qui souffrent de cancer par exemple, toutes ces catégories sont considérées comme à risque de développer des complications. Et puis il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les soignants au contact des malades et ou des personnes âgées dans les EHPAD.
Mais ça fait du monde quand même, ça représente combien de personnes?
Un peu plus de 15 millions, dont 310 000 professionnels de santé. Tous ont reçu ou doivent recevoir ces jours-ci ce bon de prise en charge par la Sécurité sociale, ce qui leur permet d'aller retirer gratuitement leur vaccin en pharmacie et ensuite de recevoir l'injection, soit par le pharmacien, leur médecin généraliste ou par une infirmière.
Mais alors, question Odile, ceux qui ne sont pas directement concernés, ceux qui ne font pas partie de cette population ciblée, ils doivent quand même aller,
ils peuvent bien sûr y aller, se faire vacciner, parce qu'ils vont protéger leur entourage. C'est très important. Si vous avez dans votre entourage des grands-parents fragiles, des personnes malades, il faut vous faire vacciner absolument pour les protéger, bien sûr.
Alors, parce que tout le monde, évidemment, ne se vaccine pas.
Alors non, la couverture vaccinale, elle est assez faible. Par exemple, pour les personnes à risque, eh bien, il y en a moins d'une sur deux qui est vaccinée chaque année. Et parmi les soignants, c'est encore plus faible, un tiers seulement. Alors que selon l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait atteindre une couverture vaccinale de 75% pour que cela soit efficace.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de défiance aujourd'hui, et en France particulièrement, sur le vaccin.
Absolument. On sait que les Français sont assez réticents envers les vaccins. Et puis on sait aussi que l'efficacité du vaccin contre la grippe est très variable selon les années, entre 30 et 50% d'efficacité seulement.
Alors cette année, vu le contexte et cet appel massif à se faire vacciner, les labos ont dû mettre les bouchées doubles.
Oui, par exemple, Sanofi Pasteur, c'est l'un des principaux fabricants. Eh bien, Sanofi Pasteur a fait travailler ses équipes 7 jours sur 7, y compris la nuit. Résultat, 20% de doses supplémentaires par rapport à l'an dernier.
Ça veut dire qu'il y a un risque de pénurie, Odile ?
Alors, ça serait quand même très étonnant. Il faudrait vraiment que toute la population à risque, les soignants et puis beaucoup de gens aillent se faire vacciner. Le gouvernement a quand même commandé 15 millions de doses, mais il fait tout quand même dans cette éventualité, dans l'éventualité où ça ne suffirait pas. Les autorités ont lancé un appel d'offres pour constituer un stock de réserve. Et puis la Direction Générale de la Santé a demandé, elle, aux pharmaciens de délivrer le vaccin en priorité aux personnes à risque.
Ah, ça veut dire qu'à partir du moment où le vaccin va être en vente, lorsqu'on va aller chez le pharmacien, on va vous demander si vous êtes à risque.
Voilà.
Ou si...
Bon, le pharmacien ne peut pas refuser de vous vendre le vaccin, bien sûr. Mais il va y avoir une petite priorité donnée à ces personnes à risque.
Merci beaucoup, Odile Pougeot.
Et à 18h47 sur RTL, après avoir jeté un œil sur la semaine à venir, eh bien, on va allumer l'autoradio de Christophe Bourou et essayer la 3008. À tout de suite.